Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Nous sommes donc avec Alexandra, qui est présidente d'une association de commerçants à Paris.
Oui.
Alexandra, vous
Bonjour,
êtes anxieuse.
Pascal. Nous sommes anxieux au village Federbe, absolument. Parce que, écoutez, ça ne s'arrête pas. Et puis, on ne sait pas cette fois-ci à quelle sauce on va être mangé. Nous sommes tous et toutes dans l'attente des nouvelles annonces. Je vous laisse imaginer, pour les commerçants, de ne pas savoir ce qui va se passer demain, après-demain. Est-ce qu'il y aura des aides, pas des aides? Comment va-t-on faire? Quel type d'annonces vont être mises en place? Nous ne savons pas. Vous en savez peut-être plus que
nous. Là, personne ne sait. De toute façon, il y avait Conseil de défense ce matin. Pour tout vous dire, tout le monde s'appelle dans ces cas-là.
C'est ça.
Essaye d'avoir des infos, les uns à l'Élysée, les autres avec un député qu'il peut connaître, etc. Mais les journalistes de la rédaction d'RTL travaillent, bien sûr. Mais pour le moment, rien n'a filtré. C'est la vérité.
Ouais.
Donc, personne ne sait.
Ouais.
Bon, un confinement en Île-de-France, bouclé, fermé... Ça me paraît pas forcément envisageable. D'un autre côté, les enfermistes veulent leur revanche. Ils veulent
Je
leur revanche. Donc, ils ont perdu au mois de janvier et février et ils veulent qu'on ferme.
Ce matin, si vous me permettez, j'ai été un peu surprise par une toute petite phrase qu'a prononcée Martin Hirsch au micro d'Alba Ventura sur, par exemple, si était retenu le confinement pour le week-end sur Paris, région parisienne, en disant, écoutez, les gens n'iront pas s'acheter de fringues le week-end et puis c'est tout. Mais attendez, il est marrant, monsieur Hirsch,
oui, marrant
c'est
dites,
pas le terme. Mais écoutez, ça me fait pas rire du tout parce que il y a des gens qui travaillent.
Non, et
des
c'est...
magasins, des commerçants, ce sont des gens qui travaillent, qui ont des familles. Non mais attendez.
Oui, puis les jeunes qui ont travaillé du lundi au vendredi sur leur ordinateur toute la journée, d'abord ils ont beaucoup de mal à le respecter, ces jeunes-là, qui ont envie de sortir un peu le samedi et le dimanche. C'est un mépris pour les plus jeunes, mais bon.
Et pour tout le monde, c'est-à-dire que nous, on serait éventuellement autorisés à travailler du lundi au vendredi, le week-end donc rien. Et en plus, si on nous maintient un couvre-feu à 18h, je vous laisse imaginer, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune soupape. On va mourir d'autre chose que le Covid, là, d'asphyxie, je pense, et de perte de nerfs, on va être complètement démoralisé. Enfin, c'est pas
et
du
en
tout.
Plus, moi, ce que je n'arrive pas, c'est à avoir les bonnes informations. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je n'arrive pas. Visiblement, on nous dit chaque année. Les services de réanimation
J'ai vu les graphiques
sont saturés de la même manière.
Je n'arrive même pas, moi, très bien parlé.
Voilà, j'arrive même pas à avoir des infos précises là-dessus.
Je suis d'accord.
Puisque tous ceux qui défendent leur propre thèse arrangent ou leurs chiffres ou leurs points de vue en fonction de ce qu'ils veulent vous faire passer.
C'est vrai.
C'est très, très difficile.
C'est très difficile.
Très difficile. Alors, il n'y a qu'une chose sur laquelle on peut être d'accord. 1000 lits de réanimation. 1000 lits pour l'Île-de-France. Pour 12 millions.
Vous trouvez ça bien ?
Pour 12 millions. Hein ? Comment voulez-vous que ça n'explose pas ?
Mais évidemment.
Enfin, pour moi, je trouve ça effrayant.
C'est très effrayant, et d'autant plus un an, jour pour jour, aujourd'hui, après la date du début du premier confinement. C'est-à-dire, qu'ont-il fait en un an pour améliorer la capacité hospitalière ?
Rien.
Mais écoutez, et alors, il y a des tas de gens qui vont perdre leur travail, qui vont se suicider, qui vont déprimer.
C'est incroyable, d'ailleurs. Ni le lit. Alors évidemment, les lits, ça coûte cher, mais ça coûte moins cher que le quoi qu'il en coûte depuis un an.
Absolument. C'est pour ça que nous ne comprenons pas très très bien où va le gouvernement. Et puis les aides vont-elles être mises en place? J'en doute. Je ne crois pas que sur Nice et dans les Hauts-de-France, les confinements du week-end aient généré des aides du gouvernement.
Mais ça va être pratique, les aides. Vous avez raison. Il y aurait des aides pour Paris, puis il n'y aurait pas d'aides pour ceux qui ne sont
pas
confinés.
Donc comment ils vont faire? Moi, j'appelle Monsieur Bruno Le Maire. Là, je lui lance un appel sur votre antenne. Monsieur Bruno Le Maire, donnez vite, nous, très très vite, des nouvelles.
Merci Alexandra, vous êtes commerçante dans Paris, vous avez un magasin de bijoux, c'est ça ?
J'ai un concept store, pas seulement bijoux, j'ai aussi des choses essentielles et non essentielles. D'ailleurs, je fais exprès bien sûr d'employer ces mots qui me hérissent au plus haut point, comme vous pouvez l'imaginer.
Oui.
Mais je fais aussi beaucoup de choses éthiques, solides, véganes, et puis comme par exemple de la cosmétique.
La dernière fois, vous nous aviez appelé, vous nous aviez donné votre chiffre d'affaires, je crois, d'une journée. Et ça m'avait intéressé.
Écoutez...
Par exemple, depuis ce matin, votre chiffre d'affaires, c'est quoi ?
Alors, je vais vous faire pleurer encore. Donc, depuis ce matin, j'ai vendu 2 cartes postales. Et puis, depuis ce matin, on va dire, je regarde la ma feuille en même temps que je vous parle, à peu près 100 euros. Voilà.
Bah, écoutez, voilà, bon courage.
Bah, écoutez, merci Pascal en tout cas et merci à vos auditeurs.
Bon courage.
Merci.
Il est 13h06, c'est une émission qui sera placée évidemment sous le signe de, d'un anniversaire. Hein, ça, le 17 mars 2020, c'était le premier jour, c'était un lundi, le premier jour du confinement. On était éberlués. Et alors, disons-le, il y avait aussi certaines personnes qui ont aimé ce confinement, paradoxalement. Je ne veux pas dire qu'il y a des nostalgiques du confinement, mais ça a été une parenthèse parfois enchantée. Ça a été un moment dans nos vies. Si ça s'était arrêté là, franchement, ça serait peut-être, paradoxalement, un assez bon souvenir. Pour certains, en tout cas. Donc, vous pouvez aussi témoigner de cette réalité et nous appeler. Monsieur Boris Pirédou est là. Je le salue aujourd'hui. Bonjour Boris.
Bonjour Pascal.
Et nous marquons une pause et vous pouvez évidemment nous appeler au 3210, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. L'Île-de-France sera-t-elle confinée le week-end, la semaine entière? Le Premier ministre Jean Castex a prévenu hier soir chez nos confrères de BFM.
Ce moment est venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne.
Saturation des hôpitaux, 419 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, était l'invité de RTL ce matin.
Soit c'est le confinement le week-end, et dans ce cas-là, il faut qu'on l'accompagne et que les Français qui nous écoutent, que les employeurs, que les médias disent confinement le week-end, mais très grande vigilance pendant la semaine. Soit c'est un confinement plus large, si c'est le confinement toute la semaine, alors ça sera probablement plus freinateur, mais il faut le respecter et le supporter.
Faut-il aussi durcir les restrictions dans les Hauts-de-France et en PACA? Faut-il reconfiner d'autres régions? Eh bien, laissez-nous vivre, demande Anaïk sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. J'aimerais plutôt qu'on nous prépare à une sortie de crise, hein, réagit Laetitia. Il faut en finir avec le deux poids, deux mesures en France, s'énerve Gauthier. L'Île-de-France doit être reconfinée. Nicole, on a marre de cette préparation des esprits et un an à vivre sans toutes nos libertés, conclut Gaël. C'est long, les restaurants, le cinéma me manquent. Voir ses proches le soir me manque. À quand la sortie du tunnel? Dans un petit moment, j'en ai bien peur. Et Pascal retient l'amateurisme, je cite, XXL des dirigeants.
Eh bien, l'amateurisme, finalement, c'est Romain qui en parle aussi. Bonjour Romain. Et puis, on va peut-être faire un petit dialogue entre Romain et Maxime, parce que j'ai l'impression qu'ils sont sur deux positions différentes. Donc, je salue d'abord Romain, consultant, 25 ans. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Bonjour. Donc, vous êtes un anti-confinement, si je vois bien l'affiche qui est sous mes yeux.
Alors, je ne suis pas anti-confinement par principe. D'abord, je suis un citoyen respectueux de ce qu'on me demande. Par conséquent, s'il y a un nouveau confinement en Île-de-France, je précise, je le respecterai comme j'ai scrupuleusement respecté les deux autres.
Et Maxime, en revanche, qui habite Cergy-Pontoise, qui serait donc concerné aussi, vous seriez tous les deux concernés par le confinement, c'est important de le dire. Vous pensez, Maxime, qu'un confinement serait le bienvenu?
Voilà. Bonjour. Bonjour déjà à tous. Merci beaucoup de me prendre, Pascal. La seule chose que j'ai à dire, c'est que pour moi, on n'est pas scientifique. C'est clair que si on nous demande de faire quelque chose, on le fait. Voilà.
Après, sauf que les scientifiques, pardonnez-moi de le dire comme ça, Maxime, comme ils ont dit tout et son contraire, j'ai le droit d'être en défiance sur eux.
Oui, bien sûr. C'est pas le scientifique qui doit décider.
Et en plus, c'est pas le scientifique qui doit décider. Mais même les scientifiques, parce qu'en fait, c'est pas une science. D'une certaine manière, le confinement. Donc, c'est pas une science.
Ça va être aux politiciens de prendre les règles.
Et même aux politiques. Alors, qui commence? Romain, pourquoi? Quel est votre avis? Et qu'est-ce que vous imaginez?
Je pense que, vous savez, Georges Pompidou disait « gouverner, c'est contraindre ». Il avait raison. Mais gouverner, c'est aussi avoir un cap. Et c'est dessiner quelque chose. Or, aujourd'hui, moi, je me dis « je suis français, je ne sais plus où je vais ». J'entendais votre auditrice juste avant, les gens sont désespérés, il va falloir voir les risques psychosociaux d'ailleurs post-confinement. Je serai israélien aujourd'hui, j'aurai véritablement un cap de mon gouvernement, je saurai où mon gouvernement me mène. Et le confinement, il est acceptable à partir du moment où on sait pourquoi il est mis en œuvre. Là aujourd'hui, le gouvernement patauge, on n'a pas les doses de vaccins, autant le premier et le second pouvaient être. Le second, c'était déjà plus discutable, mais le premier était naturellement un confinement d'urgence, donc il était évident qu'il fallait confiner. Là maintenant, j'estime que nous payons l'amateurisme du gouvernement, car nous n'avons pas les doses de vaccins, et c'est franchement pitoyable. Et encore une fois, quand je regarde Israël, ou la Corée, ou d'autres États, il n'y a pas qu'Israël, mais voilà des gouvernements qui ont anticipé, qui ont un cap, et là, le confinement, serait plus acceptable si nous, nous avions un cas pour aujourd'hui, on n'en a plus.
Maxime Sergi Pontoise, qui souhaite sans doute un durcissement du confinement.
Non, moi je souhaite qu'on sorte de ça, parce qu'il y a déjà une chose qui soit claire, je ne suis pas pro-confinement. Moi, s'il y a bien une chose que sur laquelle je suis tout à fait d'accord, c'est que le confinement... Ah, je suis désolé, Pascal, je vais devoir vous laisser. Les
qu'est-ce qui se passe
à côté de chez moi. Je vous laisse. Ah bon, j'ai des voisins qui font des travaux.
Je
m'en excuse.
Ah, bah non, mais je vous entends encore, Maxime.
Vous
allez-y.
Bien
bon, ah, allez, okay, allez-y, on ne va pas vous laisser comme ça, nous. On est...
Et donc la seule chose que moi j'ai à dire vraiment sur le confinement et des hôpitaux qui sont pleins, est-ce que les politiques peuvent dire, c'est que dans tous les cas, on juge nos politiques. C'est nous qui les avons mis en place. On ne serait pas capable de faire mieux qu'eux, je ne le crois pas. La crise dans le monde a été...
Bah, je pense que vous ne feriez pas pire, si vous me permettez. Je ne veux pas être désagréable, mais je pense que on ne ferait pas pire. On vient de passer une année, on a le droit quand même de tirer quelques conclusions. Je ne suis pas sûr qu'on ferait pire.
C'est qu'on jugera dans un an. Enfin, moi, c'est vraiment... les élections sont là, on change le gouvernement et on n'est plus d'accord avec eux. Maintenant, il y a malgré tout aucun gouvernement. Quand on voit ce qu'Israël... votre auditeur prend Israël en exemple. Quand on voit ce qu'Israël fait sur la surveillance de leur population, moi, je le supporterai pas. Prendre Israël comme exemple, et si on n'est pas vacciné, on peut plus rentrer dans un restaurant. Moi, je le veux pas.
Mais c'est exactement ce que la France va faire, sauf que pour l'instant, on n'a pas les doses alors que les Israéliens les ont.
Mais c'est
donc,
parce que
donc, en fin de compte, nous, on va avoir la double peine parce qu'on va avoir le pass vaccinal, mais par contre, on l'aura deux ans après tout le monde.
Ce qui est dommage, c'est que on est un des pays les plus riches au monde. Il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter d'en avoir peur. Si demain, ils veulent plus que les Français voyagent, eh ben, on va plus voyager. Et les compagnies aériennes, à mon avis, d'elles-mêmes mettront la pression pour enlever ce passeport. Au bout d'un moment, on est un des pays où on a le plus d'argent, où les gens viennent le plus chez nous. Eh bien, s'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Et puis, s'ils ne veulent pas de notre argent,
mais
vacances,
ça,
on n'ira pas.
Ça, c'est un autre débat. Là, on parle des Français. La question aujourd'hui, c'est qu'on va encore être confinés. Pourquoi ? Parce que le gouvernement n'a pas anticipé. Quant au mois de janvier, la France, qui est un pays riche, je suis d'accord, qui est censé être une grande nation, quant au mois de janvier, la France a moins de doses de vaccins que le sultanat d'Oman, la Croatie et le Luxembourg. Là, je suis désolé, ce n'est pas pardonnable et c'est la faute du gouvernement.
Eh bien, merci Romain et Maxime de cet échange. C'est vrai que l'Angleterre a mieux réussi que nous, et nous pour des raisons d'idéologie, puisqu'on a considéré que l'Europe, on devait passer par l'Europe. À l'arrivée, on est moins bien vaccinés que les Anglais. AstraZeneca, c'est un vaccin anglais, donc on n'a pas voulu le prendre. On a mis un mois, je crois, à le valider. Ce mois-là, aujourd'hui, on est en difficulté. Non seulement avec AstraZeneca, on l'a suspendu. Donc, ça aurait peut-être accéléré, évidemment, la vaccination si on l'avait validé plus tôt. Merci Romain, Maxime. Il y aura peut-être d'autres sujets sur lesquels vous pourrez intervenir aujourd'hui, notamment ce qui se passe à Blois. Le supermarché vandalisé, la station-service incendiée. Moi, j'aime beaucoup le sujet, le Vatican qui a réaffirmé la doctrine de l'Église. L'homosexualité est considérée comme un péché. On est quand même en 2021 et c'est un catholique qui vous dit ça. Donc, il peut être quand même étonné ou choqué même de voir que le Vatican considère toujours que l'homosexualité soit un péché. Ça fait 2000 ans, vous me direz, que le Vatican est sur cette position. La pub, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Alors qu'on annonce qu'une conférence de presse est programmée jeudi à 18h par messieurs Jean Castex et Olivier Véran. C'est habituel d'ailleurs cette conférence de presse, parfois c'était seul Olivier Véran, Jean Castex sera là, on saura demain à quelle sauce nous serons mangés. J'observe que la présidence de la République n'a pas prévu de parler, et c'était toujours la présidence de la République qui parlait pour annoncer un confinement global. Là, ça sera peut-être un peu plus léger. Nous sommes donc avec Denis. Bonjour Denis, toujours sur le confinement, un an de confinement. Vous êtes maître d'hôtel. Donc vous êtes dans un secteur, vous travaillez dans un secteur particulièrement touché.
Oui, effectivement, Pascal.
Aujourd'hui, vous êtes en chômage partiel ?
Non, du tout, parce que moi, je suis dans l'événementiel. Vous savez, je suis maître d'hôtel intermittent, donc je suis complètement arrêté depuis un an.
D'accord. Et vous avez des aides? Vous êtes accompagné?
J'ai bénéficié au départ d'un statut que j'avais, où j'avais des indemnités de Pôle emploi, mais j'ai mangé tous mes droits, puisque ça fait un an. Donc là, je suis dans l'expectative d'une prime éventuelle de 900 € pour compenser, qu'il est très difficile d'obtenir avec des critères évidemment plus ou moins impossibles. Donc c'est très compliqué.
Mais quand vous dites que vous avez mangé tous vos droits, c'est-à-dire que vous n'avez plus de revenus aujourd'hui ?
Bah, si, j'avais cette indemnité pour l'emploi que j'ai eue pendant 10 mois. Depuis, j'ai un minimum de 100 €, mais qu'on peut peut-être me reprendre en trop perçu parce que les critères sont compliqués. Alors on me l'avance par mesure sociale et économique, mais ils ne savent pas si j'ai le droit.
Et comment vous allez ?
Donc c'est compliqué. Bah, je suis dans l'expectative parce que le reconfinement, le semi-confinement, la régionalisation des couvre-feux ou des interdictions, c'est quand même le résultat d'un échec collectif, hein.
Denis, on va sécuriser la liaison parce qu'elle n'est pas extraordinaire. Oui. On va la sécuriser parce qu'il y a des petits manquements. Et on va être, pourquoi pas, avec Yannick, qui est médecin à la retraite. Bonjour Yannick.
Bonjour Pascal.
Un an de Covid, c'est notre thème aujourd'hui.
Oui, un an de Covid. Alors après, on peut le voir de différentes façons. Est-ce que c'est parce qu'on va certainement se retrouver avec un troisième confinement ? Qui pour moi est un échec collectif. Donc je vous avais déjà appelé une fois pour vous dire qu'on avait loupé certaines choses, notamment au niveau de l'isolement. Si on avait pris depuis le départ l'habitude d'isoler les cas contacts dans les hôtels de proximité qui sont vides, on n'en serait peut-être pas avec des chiffres qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est ce qui s'est passé dans certains pays qui l'ont fait très bien et ils n'ont pas eu toutes ces envolées de chiffres. Bon, ben ça, c'est malheureusement, on constate maintenant quand même une critique vis-à-vis de l'action de nos gouvernants depuis un an. D'abord critique parce que effectivement on avait une préparation à une pandémie qui était inexistante alors qu'on a des comités Théodule nombreux où des gens sont rémunérés pour prévoir ce qu'ils n'ont pas fait. Donc peu de tests et pas de masques. Donc pas de masque, ça veut dire, là on peut quand même se retourner vers la Cour des comptes, puisque c'est quand même à la suite que la Cour des comptes ait dit que les masques, c'était ridicule de construire des masques, fabriquer des masques en France, puisqu'ils étaient moins chers en Chine. Donc on s'est retourné vers les Chinois, sauf qu'on n'avait pas prévu qu'eux, ils auraient besoin de leur test, leur masque avant nous.
Mais par exemple aujourd'hui, un an plus tard, est-ce que par exemple vous validez l'idée d'un confinement possible en Île-de-France? Sachant que vous êtes dans quelle région, Yannick?
Moi, je suis à Nantes.
Donc Nantes, c'est plutôt calme.
Moi, pour l'instant, c'est calme. Oui, pour l'instant, c'est calme. Mais le problème, c'est général. C'est-à-dire que on n'a pas pris conscience. Enfin, on commence à prendre conscience de nos incapacités à prévoir, à savoir notamment pourquoi on n'avait pas de tests alors que les Allemands en avaient. Ben, on vient de prendre conscience qu'on avait trop perdu de notre outil industriel, contrairement aux Allemands. Alors maintenant, on demande aux entreprises de faire revenir leurs activités en France. Vous voyez, on a vécu très bien, comme disait un de mes prédécesseurs, on est un pays très riche, mais on a vécu sur des acquis. Et on a oublié que bah, c'était mieux de construire des choses en France plutôt que de dépendre de l'étranger. Et puis, on a oublié aussi le privé. Alors bien sûr, moi, ancien médecin généraliste, je ne peux qu'être critique sur l'absence de... On a oublié complètement les généralistes au premier confinement. Au deuxième, à partir de septembre, on s'est souvenu que les généralistes existaient. Et aujourd'hui, ils ont le droit de suivre des gens qui ont un Covid modéré, de les traiter. On nous a interdit de traiter. Alors je passerai l'histoire de l'hydroxychloroquine, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait l'azithromycine, il y a tous les antibiotiques de cette famille, il y a la vitamine C, il y a la vitamine D. Toutes choses que les généralistes auraient pu prescrire, qu'ils prescrivent aujourd'hui. Alors depuis, on a avancé, puisqu'on prescrit en plus des anticoagulants, puisqu'on s'est rendu compte que le virus était quand même, dans les formes graves, à l'origine de problèmes de coagulation.
Bah merci, voyez, Annick, de ce tour d'horizon d'une année que vous venez de faire. Ludovic est là également, et je remercie vraiment Yannick. Ludovic est là parce que, je disais tout à l'heure, il y a aussi des gens qui ont apprécié le confinement. Ça a été une parenthèse parfois enchantée. Et c'est le cas de Ludovic. Bonjour Ludovic.
Bonjour Pascal, bonjour.
Racontez-nous.
Donc effectivement, alors moi je suis donc du côté de Montpellier, j'ai une entreprise dans le bâtiment avec 7 salariés et c'est vrai que nous on est débordés de travail, on a toujours été débordés de travail, c'est très compliqué parce qu'on a du mal à recruter la main d'œuvre. Donc on était sur les chapeaux de roue comme d'habitude et finalement ce confinement a permis de faire une pause, une réelle pause parce que quand on prend des vacances, on n'a jamais des réelles vacances. J'ai toujours des gars qui bossent, donc qui me contactent, donc des clients qui appellent, enfin des choses organisées, c'est jamais des vraies vacances. Et là, pour le coup, très sincèrement, ça a été des vraies vacances. Ça a été, on a eu une excuse, entre guillemets, pour mettre un frein à tout ça, pour stopper tout ça, faire une pause, vraiment une pause sur
Et qu'est-ce que vous avez aimé dans cette pause?
Eh ben, en fait, le fait que ma femme était, elle, en télétravail, donc à la maison. J'ai un petit garçon qui avait tout juste un an. Et il était quand même chez la nounou, lui, paradoxalement, il était chez la nounou. Donc la journée, j'étais seul avec ma femme qui, elle, était en télétravail. Ben, je pouvais m'occuper de ma maison, j'ai pu finir les terrasses autour de ma piscine, parce qu'on arrivait quand même à se faire livrer un peu de matériel par la poste, parce que nos fournisseurs étaient fermés. Mais du coup, je pouvais m'occuper de ma maison, je faisais à manger pour ma femme le midi, l'après-midi, je faisais du vélo dans mon garage, j'allais chercher mon fils, enfin, je me suis occupé de ma vie,
ma vie. Mais c'est la vraie vie que vous dites là, s'occuper de sa femme, bricoler à la maison. Alors, c'est vrai que vous avez une maison et que c'est plus dur pour ceux qui sont en appartement. Vous êtes dans une région où il a fait beau l'année dernière.
Oui, tout à fait. Non, je le conçois tout à fait. Mmh. Hein, j'étais un peu privilégié. Hein. C'est évident que je pouvais faire du vélo dans mon garage, donc j'étais pas à rester sur le canapé, je pouvais quand même faire du sport. C'est ce qui entre guillemets a rendu tout ce confinement finalement assez sympathique. Je suis jamais sorti aussi en forme, j'ai jamais eu un mois et demi de vacances déjà, jamais, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Mmh. J'ai toujours beaucoup travaillé et du coup je suis jamais sorti aussi en forme que après ce confinement.
Bah écoutez, c'est non mais c'est le premier confinement, il y a beaucoup de gens hein, qui l'ont vécu comme vous d'ailleurs, c'est très étonnant. L'angoisse n'était pas de la même manière, c'était le printemps on avait le sentiment qu'après c'était terminé, c'était cela qui dominait.
Bien sûr, on savait pas trop, comme tout le monde, on savait pas. La première semaine, c'était pas évident parce que c'était discuté encore. Est-ce que nous, gens du bâtiment, on devait pas faire preuve de solidarité et aller travailler quand même? C'était un peu discuté. C'est les gros syndicats du bâtiment et des BTP qui sont montés au créneau et qui ont fait en sorte que nous aussi, on peut craindre cette maladie et que on avait le droit du coup aussi au chômage partiel. Mais à partir du moment où tout a été réglé, mes employés se sont retrouvés au chômage partiel. Bon, moi, j'avais pas le droit au chômage en tant que dirigeant, mais l'entreprise se portait bien, on avait une trésorerie, enfin, j'étais assez serein sur tout ça, on a beaucoup travaillé, donc en étant serein là-dessus, finalement il n'y avait plus qu'entre guillemets à subir ce confinement, et finalement le subir pour moi était assez agréable.
Eh ben merci, vraiment, parce que c'est Ludovic ou la vraie vie. J'ai envie de dire, c'était vraiment intéressant de vous écouter, Ludovic ou la vraie vie.
Ça fait plaisir. Je vous écoute tous les jours sur tous les sujets. Des fois énervant, des fois ça m'énerve beaucoup. J'ai pas le temps de. Non, c'est pas vous qui énervant, ça peut être les réactions surtout. Mais bon, voilà, il y a des sujets discutables.
C'est très bien. Et rappelez-nous, Ludovic. Rappelez-nous, parce avec que c'est
plaisir.
Sympa de vous écouter. Et bonjour à madame.
Avec plaisir.
Bonjour à madame.
Merci beaucoup, ça sera avec grand plaisir. Merci à vous. Bon après-midi. Et puis, courage pour l'Île-de-France qui risque d'être confinée. Et nous, de toute façon, dans le bâtiment, ça risque pas. Et encore moins du côté de Montpellier.
C'est gentil. Merci à vous.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Laurent Tessier.
Un an après le premier confinement, dans quel état d'esprit êtes-vous? Qu'est-ce qui vous manque le plus? À quel moment sera heureux le Premier ministre Jean Castex?
J'ai envie de vous dire le jour où je pourrai dire à mes concitoyens, ça y est, c'est fini, vous pouvez vous embrasser. Là, je vous assure que je serai un Premier ministre heureux.
On imagine, avez-vous l'impression d'être dans un jour sans fin? 32-10. La ville de Blois, dans le Loir-et-Cher, a été cette nuit le théâtre de violences urbaines. Un supermarché vandalisé, une station-service, des voitures incendiées, des violences qui ont éclaté après un refus d'obtempérer. Vous habitez la commune, nous attendons vos appels dès maintenant au standard. Le Vatican a réaffirmé cette doctrine de l'Église catholique, l'homosexualité est considérée comme un péché. Le Vatican confirme l'impossibilité pour les couples de même sexe de recevoir les sacrements du mariage. L'Église doit-elle évoluer sur le sujet? Vous ne comprenez pas cette position. Que représente pour vous le mariage? Eh bien pour Chris, le Vatican fait du Vatican, il n'accepte pas les différences. La religion doit évoluer sous Pierre Marion sur nos réseaux sociaux. Et vous attendiez à quoi? Demande Joséphine. Ils ne diront pas autre chose. Vous imaginez un peu les réactions.
Merci Laurent. On a un deuxième témoignage sur la nostalgie du premier confinement, ce qui est paradoxal hein, d'en parler aujourd'hui, pourquoi pas. Mais Virginie est avec nous, elle est styliste, elle habite dans les Yvelines et elle voulait nous raconter peut-être cette parenthèse enchantée. Bonjour Virginie.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Eh bien, oui, ça me fait plaisir beaucoup. Écoutez, moi, ça a été, ce premier confinement, ça a été une bouffée de bien-être qui s'est transformée en bouffée de bonheur. J'étais plus ou moins dans une dépression de vie de tous les jours, de pas bien. Et le fait de me retrouver avec mon mari, ma fille, de pouvoir, bon, on habite une maison donc on a cette chance aussi, mais de se retrouver le midi, il faisait très beau, à déjeuner dehors, de faire des choses ensemble à la maison, mais ça a été magique, franchement ça a été magique. Je voulais pas que ça s'arrête. Plus ça allait, plus je m'angoissais du fait que ça s'arrête. C'est pour vous dire, c'est dans un sens contraire.
Oui, on peut comprendre ça, mais en même temps, alors comment vous avez retrouvé la vraie vie? Parce que ça, c'est une parenthèse enchantée, mais comment ça s'est passé?
Ça a été deux mois fabuleux. Mon mari a continué de travailler à la maison. Donc ça, c'était une bonne chose. Ma fille a repris le lycée plus ou moins une semaine sur deux. La seule chose négative, c'est que moi, mon boulot, c'est pas allé dans le bon sens parce que très compliqué pour mes clients dans la mode. Mais c'est pas grave. J'étais dans un tel bonheur qui m'a duré tout l'été et que voilà.
Et maintenant?
Maintenant, j'ai hâte que
bien sûr, oui. L'ennui naquit un jour de l'uniformité. C'était des vieux proverbes qu'on disait enfant. L'ennui naquit un jour de l'uniformité.
Ah, c'est joli.
Mais oui.
Mais c'est fou parce que je sais que on va se retrouver tous les trois. Le seul problème, bon, c'est que je pouvais pas voir ma mère, mais bon, qui habite de l'autre côté, qui habite en banlieue est. Mais bon, c'était pas grave. On s'appelait même tous les jours, alors qu'on s'appelait qu'une fois par semaine. Le fait que mon mari se lève pas à 5 heures du matin, on pouvait regarder un film ensemble le soir, ce qu'on faisait pas, parce que il se couchait toujours avant la fin du film. Là, on a partagé mais tellement de choses, et j'ai changé ma façon de voir aussi.
De voir votre mari, vous avez changé votre façon. Vous le voyez différemment.
Écoutez, je l'ai comment je peux dire?
Découvert, redécouvert. Vous avez redécouvert votre mari.
Et aimé encore plus fort.
Non, voilà.
Je vous jure.
Alors, tout à l'heure, on aura un débrief. Cette phrase-là, je la veux dans le débrief. J'ai aimé mon mari de plus en plus fort, de encore plus fort.
Encore encore plus fort. Je l'ai découvert, mais je l'ai découvert sur place. Vous savez, la vie tous les jours, surtout oui. la vie parisienne et tout ça. Bon, on est toujours par Montparnasse, voilà. Et là, le fait de on ne s'est jamais posé autant de temps ensemble.
Mais oui, mais il y a beaucoup de couples qui ont dit ça. Mais oui, mais il y a beaucoup de couples. Moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires merveilleuses de couples qui disaient, ben voilà, j'étais avec ma femme tous les jours, c'était formidable, on était tous les deux. C'est très rigolo ce que vous dites.
Mais parce que
mais faut bien s'entendre, hein, parce que.
Voilà, c'est ça. Et en fait, je savais qu'on s'entendait, mais de là à vivre 24 heures sur 24 ensemble, mais je me suis dit, mais c'est vraiment l'homme de ma vie.
Eh ben écoutez,
voilà. Donc
formidable.
Ça c'est une très bonne chose.
Ben oui, c'est bien. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ?
20 ans.
Écoutez, vraiment, c'est magnifique. Il y a tellement de gens qui parfois ne s'aiment plus au bout de 20 ans que.
Oui. Mais bon, vous savez, avant le confinement, je me posais plein de questions sur tout. J'étais franchement pas bien, franchement limite, dans une espèce de dépression, enfin bref, pas top.
Et là, ça s'est reparti.
Voilà. De plus entendre, et puis aussi, vous savez, le fait de plus entendre de bruit, je vais vous parler de trucs complètement simples, mais rien que de voir les bourgeons s'ouvrir, je le voyais pas ça. Dans mon jardin, je me souvenais pas que j'avais telle fleur à tel endroit. Enfin bref.
Virginie, merci. Ce que vous venez de dire.
Et la consommation aussi qui est différente. J'ai complètement changé à ce niveau-là.
Ben merci, là aussi.
On est super consommateur et on ne l'est plus.
Merci de ce témoignage. On va marquer une pause, donc je vous interromps. C'est pas poli d'une certaine manière. Il y avait un côté un peu Caroline Dublanche dans votre témoignage et je la salue, Caroline. Mais c'est vrai que chacun a vécu de façon parfois différente ce confinement. Moi, ce qui m'amusait, c'est que je passais parfois dans les... Il n'y avait personne dans Paris, pour le coup, et on voyait des pieds qui dépassaient des fenêtres et des gens qui bronzaient. Des pieds nus qui dépassaient des fenêtres, c'était étonnant. La pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Laurent Tessier, on va changer de sujet quand même, on ne va pas parler que du confinement.
Ben non, vous pouvez nous appeler sur d'autres sujets au 3210 dès maintenant avec une question essentielle ce midi. Comprenez-vous les chiffres romains ? Oui, certains musées ont pris la décision d'y renoncer. D'Astérix, s'en fout, c'est romain. Voilà. Certains musées ont pris la décision de renoncer aux chiffres romains. La raison, un nombre grandissant de visiteurs ne saurait plus lire la numérotation antique. Marche-t-on sur la tête ? Peut-être pas, si l'on en croit, vous savez, le sketch des Inconnus avec Louis XVI.
À mort, lui croivez bâton ! À mort, lui croivez bâton ! À mort,
alors, les chiffres romains, stop ou encore ? 32-10. Et puis, où est l'amour ? Depuis vendredi, Émilie cherche à retrouver un garçon aux cheveux bruns bouclés qu'elle a croisé dans le métro à Paris sur la ligne 8. Elle est allée coller des affiches, retrouver l'inconnu du métro.
Ça fait quelques jours que je le fais et je continue à le faire. J'ai un scotch que j'ai volé dans mon bureau, à vrai dire. J'ai également 20 ou 30 feuilles que j'ai imprimées, que je mets un peu partout.
Alors, l'inconnu du métro, si tu nous écoutes, appelle-nous dès maintenant au 3210. Un indice, il lisait « L'existentialisme est un humanisme » de Jean-Paul Sartre. Peut-être que c'était Pierre-Louis, notre community manager.
Merci Laurent, merci. On est avec Olivier, nous parlera tout à l'heure de Blois parce qu'on pourra évoquer d'autres sujets, je l'ai dit. Mais nous poursuivons cette année en confinement. Nous sommes avec Vinciane, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous allez bien Vinciane ?
Bah écoutez, ça va et vous ?
Bah, et votre morale ?
Bah, on tient, hein, qu'est-ce que vous voulez. Je pense que nous, c'est devenu routinier maintenant. On est... voilà, j'ai l'impression que 5 ans qu'on est là-dedans. Et ça fait partie des nouvelles pathologies qu'on a maintenant en hôpital et qu'il faut apprendre à soigner, à traiter, à prendre en charge. Voilà. C'est une charge supplémentaire et avec mes collègues, quand je les entends parler, on a le sentiment que ce sera comme tout le temps. On ne se met pas d'objectif final à cette situation. On se dit que ça fera partie de notre vie, avec des hauts et des bas, peut-être avec une baisse cet été comme il y a eu l'été dernier, peut-être pas. Mais sincèrement, nous, voilà, c'est notre quotidien. C'est devenu un quotidien.
C'est-à-dire, c'est votre quotidien?
Voilà, on arrive, on prend le Covid.
Vous êtes infirmière, je le rappelle.
Oui, c'est ça. Oui. Le Covid, c'est partie de tout ce qu'on a traité, posé. Voilà, c'est quelque chose en plus qu'on doit maintenant prendre en compte.
Mais vous êtes infirmière à l'hôpital ou libérale?
Non, je suis infirmière à l'hôpital.
Bon, et aujourd'hui, vous trouvez que votre hôpital est sous tension ou qu'il est comme les autres saisons?
Nous, là, on est. C'est-à-dire qu'on arrive à gérer, là, actuellement. On arrive à gérer. On n'est pas sous tension comme en Île-de-France. On arrive à gérer. Ça reste fluctuant, tendu. On a des variants partout. Bon, voilà. En fait, il y en a partout. Et on sait que c'est partout. On se sent plus vraiment protégé dans un secteur ou dans un autre. C'est comme ça. Pour nous, dans tous les services, on est concernés. C'est étrange, mais on a l'impression que ça fait 5 ans qu'on est dedans. Et
c'est un jour sans fin.
Voilà.
On s'est habitué. Vous êtes résigné, fataliste, Vinciade.
Fataliste.
Peu résigné quand même.
Quelque part, oui, tout à fait. Oui, résigné, sincèrement, on n'a pas de perspective positive pour l'instant qui est bien identifiée. Tous les jours, on apprend des choses nouvelles. Alors, disons que voilà, en dehors du travail, on essaie de couper, de plus forcément regarder. Enfin, pour ma part, je regarde pas trop les infos. J'essaie d'essayer de mener une vie à peu près normale, une vie Covid, c'est-à-dire une vie les contacts proches, voilà, on fait autrement, on vit autrement, mais on essaie quand même de penser à nous et de se protéger et de vivre, d'essayer de vivre quand même de bonnes choses et de bons moments en dehors de l'hôpital. Mais disons que voilà, le Covid, c'est comme un nouveau cancer qui est apparu et qui malheureusement touche tout le monde. Et voilà, on est là. Enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai. On vit avec, on vit avec. Et on attend, mais on n'attend rien de. On n'a aucune perspective positive. Je crois que j'en parlais avec mes collègues, mais on ne doit pas sortir de ça. On ne doit pas sortir de ça.
Merci, Vinciane. On va s'en sortir. Alors, pour le coup, on va s'en sortir avec la vaccination. On va s'en sortir, mais ça peut être plus long. Et c'est vrai que l'exemple d'Israël pour nous est terrible parce que les restaurants vont rouvrir, les boîtes de nuit vont rouvrir en Israël il y a dans, je crois, 8 jours. C'est-à-dire que tout rouvre peu à peu. Alors c'est un laboratoire en même temps Israël puisque ça a été 50% de la population serait confinée, serait vaccinée aujourd'hui. Donc on va voir si il n'y a pas de suite après. Espérons, bien sûr, une fois que tout le monde est vacciné, l'épidémie s'arrête. Merci en tout cas Vinciane. Jawad, bonjour Jawad.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous habitez Paris, Jawad.
J'habite Paris et j'ai volontiers réagi en vous entendant lancer le teaser de l'émission. Et pour moi, cette période-là doit être regardée positivement aussi parce que c'est un moment où on a appris à peut-être à travailler plus efficacement. Dans mon cas, et ce qui est le cas de plein de personnes, de travailler en télétravail plus efficacement. On a appris, je crois, à consommer de manière plus responsable. On a appris à cohabiter de manière peut-être un peu plus bienveillante avec notre conjoint, nos enfants. On a appris peut-être à manger plus sainement. Et donc, il y a une forme de distance critique qui s'est exercée pendant ces 12 mois avec toutes les douleurs que vous avez soulignées. Ce qui m'a fait réagir, et je vous le dis avec beaucoup de respect, cher Pascal, parce que pour moi, vous appartenez à la grande famille des grands journalistes sportifs qui sont dans un excellent niveau et injustement décriés.
Mais c'est pas grave.
Non,
vous êtes gentil quand même, mais c'est pas grave. C'est normal d'être critiqué.
Oui, vous appartenez à tout ça, et en même temps...
En même temps, ça m'intéresse.
En même temps, votre teaser ne me convient pas parce que vous avez beaucoup souligné les libertés dont nous aurions été privés.
Oui, mais vous n'êtes pas d'accord ?
J'ai trouvé que venant de vous, quelqu'un qui aime Lourdes, qui aime la littérature et tout, je connais un petit peu, j'ai trouvé que c'était un poil popu. Et en même temps, et de la même manière, lorsque vous dites on n'aurait pas fait pire.
Ah ça, on n'aurait pas fait pire, ça je vous le dis. Franchement, on n'aurait pas fait pire.
Je trouve ça vachement dur.
Mais moi, alors, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est normal, puisque on ne pense pas pareil. Je vais vous dire, depuis un an, je suis sur la même ligne. Depuis un an, je dis, si je suis à la place du président de la République, ce qui est très prétentieux, très présomptueux, très tout ce que vous voulez, je mets tous les gens autour de moi et je dis, à combien de lits de réanimation on passe cette épidémie ? C'est ma seule question. À combien de lits ? Et je fais tout pour augmenter notre capacité d'accueil. Comment voulez-vous que ça ne craque pas avec 1000 lits de réanimation en Île-de-France pour 12 millions d'habitants ? Enfin, il n'y a rien d'autre à dire que ça sur cette épidémie. Oui, mais ça, c'est pour moi. C'est mon avis. Mon humble avis, comme dit l'autre.
Oui, mais quand vous dites ça, c'est comme si vous protestiez. C'est pas comme si vous protestez d'une forme de supériorité intellectuelle. Mais
vous trouvez que c'est supérieurement intelligent de dire ça ? C'est le bon sens.
Ben oui, mais.
Sérieusement, vous trouvez que c'est le. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est d'être bête comme chou de dire ce que je dis, vous voyez ?
Oui. Mais à contrario, vous opposez une espèce de bon sens populaire, de choses terre à terre.
Mais est-ce que vous êtes d'accord, Jawad, avec ce que je dis ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que si nous avions 2000 lits de réanimation en Île-de-France aujourd'hui, on n'en serait pas là ?
Eh bien, 2000 lits de réanimation supplémentaires, ça coûte des impôts, ça coûte des...
Mais ça coûte moins que quoi qu'il en coûte, Jawad, enfin ! Ça coûte moins que fermer le pays, ça coûte moins qu'indemniser les gens. Si vous fermez là dans quelques jours l'Île-de-France, ça va coûter beaucoup plus cher que... D'abord, ce n'est pas 2000 lits en plus, c'est simplement 1000. Oui, c'est simplement 1000, c'est de doubler.
Je déduis de votre propos que vous estimez que finalement, vous avez davantage de bon sens, d'intelligence de situation qu'un Olivier Véran, qu'un Macron, qu'un Castex.
Mais Jawad, je vous repose la question à vous. Je vous la pose à vous. Est-ce que ce que je dis, si nous avions 2000 lits de réanimation, on va laisser passer une pause et je vous propose 2 minutes pour réfléchir à cette question qui, franchement, ne témoigne pas d'une grande intelligence, mais au contraire de quelque chose d'assez... terre à terre, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Jawad me titille un peu, il dit je suis très critique sur le gouvernement et que ça montre une forme de supériorité intellectuelle, pourquoi pas que je me donne sur les décisions qui ont été prises depuis un an. Donc je lui dis une chose, je lui dis voilà, nous avons 1000 lits simplement de réanimation en Île-de-France pour 12 millions de personnes, donc je ne suis évidemment pas étonné que ça craque, donc je ne dis qu'une chose, pourquoi nous n'avons pas réussi à faire 2000 lits simplement de doubler notre capacité d'accueil en Île-de-France, ce qui solutionnerait, me semble-t-il, sinon tout, en tout cas beaucoup de problèmes. Jawad, est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
Eh bien, en première intention, vous avez raison, et facialement, vous avez raison, évidemment. En revanche, il me semble que si ça ne s'est pas fait, on peut valablement considérer l'hypothèse selon laquelle ça n'est pas tout à fait aussi simple que ça.
Ben écoute, pardonnez-moi de le dire. C'est beaucoup plus simple, en fait, qu'on ne l'imagine.
Peut-être, mais vous protestez d'un espèce de bon sens, pardonnez-moi.
Mais c'est pas du bon sens, ça. Parce que le bon sens, c'est péjoratif aujourd'hui. C'est pas le bon sens, c'est s'adapter à une situation. Il n'y a pas de bon sens, c'est être pragmatique.
Mais d'où viendrait le fait que les personnes qui sont en charge aujourd'hui ne soient pas capables de s'adapter à la situation ?
Eh ben, posez-leur leurs questions.
Ben oui, mais vous posez l'hypothèse selon laquelle ils ne sont pas capables. Mais je veux juste terminer, parce que je sais que ça va aller vite.
Non,
sur le fait que
vous avez tout le temps.
Non, mais je ne veux pas du tout rester en contradiction avec vous, parce que j'adore votre émission, je vous adore vous comme journaliste sportif qui témoigne d'une ambition intellectuelle très différente de ce qu'on peut imaginer couramment.
Je vous coupe parce que les journalistes sportifs, vous savez, c'est pas du sous-journalisme, le journalisme sportif.
Mais pas du tout, bien au contraire. Moi, j'estime que l'équipe et le journal mieux écrit.
Franchement, exactement, vous avez parfaitement raison. Je trouve qu'il y a beaucoup de talent chez les journalistes sportifs.
Mais absolument. Voilà, c'est juste ce que je voulais préciser juste avant qu'on se sépare sans doute, mais voilà, j'adore ce que vous faites, j'adore votre émission.
C'est gentil.
Et je voulais vous porter la contradiction de manière ferme et amicale à la fois.
Mais vous avez raison, mais on peut critiquer, enfin ce que je dis me paraît... En fait, je vais vous dire, je trouve ça fou ce que nous vivons. Complètement fou. Je trouve ça fou les décisions qui ont été prises qui me paraissent disproportionnées par rapport à cette épidémie. Mais c'est vrai chez nous, c'est vrai partout. Comme je trouve complètement fou qu'Emmanuel Macron, en 24 heures, ait retiré AstraZeneca parce que l'Allemagne l'avait fait. Je trouve ça fou. Donc, je suis décontenancé maintenant, et j'exprime ce point de vue-là, et puis après, je l'oppose aux auditeurs. Ce qui est, je trouve ça incroyable. C'est les moutons de Panurge. L'Allemagne fait ça, donc nous, on le fait deux minutes après. Mais enfin, et le signe qu'on envoie à la population française sur AstraZeneca. En tout cas, merci, Jawad.
Merci à vous, Pascal.
Merci à vous. Merci beaucoup. Nous changeons à 13h55 de sujet.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
À Blois, supermarché vandalisé, station-service incendiée. La ville de Blois a été cette nuit le théâtre de violences urbaines, des violences qui ont éclaté après un refus d'obtempérer. Vous avez peut-être vu les images qui sont absolument incroyables. Blois, c'est 45 000 personnes. On n'imagine pas, évidemment, des problèmes de sécurité XXL à Blois. Et pourtant, c'est le cas. Et on va appeler Olivier qui, je crois, habite Blois.
Bonjour Pascal.
Bonjour Olivier, vous êtes, comment on dit, blésien ?
Blésois.
Donc vous êtes blésois.
C'est ça même.
Bon. Vous êtes surpris par la violence ?
Exactement, c'est ce que je disais justement au standard. J'ai appelé pour ça parce que, étant un peu investi dans la ville de Blois, j'étais plutôt surpris de telle violence à Blois, dans un quartier effectivement qu'on pourrait aller surnommer de populaire, hein, qui est donc la ZUB de Blois. Un quartier qui a connu des violences. Bon, les dernières remontent déjà à plus de 6 ou 7 ans avec des voitures incendiées, ce genre de choses, mais c'était, voilà, on va dire à moindre mesure. Là, on s'aperçoit que, voilà, les violences qui ont eu lieu cette nuit sont pas du tout l'écho du quartier comme on le vit aujourd'hui, qui est quand même devenu qu'un quartier plus calme, plus apaisé, et voilà, c'est disproportionné par rapport à la ville, par rapport à ses habitants, et c'est assez choquant, on va dire. Alors, on se demande pourquoi. Effectivement, on part. Et ça part, et malheureusement, souvent, ce genre de faits divers dans d'autres villes part toujours d'un même constat, c'est-à-dire, un refus d'obtempérer d'un contrôle de police. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, des jeunes qui s'étaient réfugiés dans un bloc électrique qui avait été électrocuté. On avait accusé la police de les avoir poursuivis, qu'ils avaient voulu se cacher. Mais à la base, les violences partent toujours de ce genre d'événements. Là que ça ait atteint une telle violence et un tel déchaînement, c'est un petit peu ahurissant. Dans un quartier qui s'était quand même calmé, dans une ville qui est plutôt apaisée, avec une mairie qui a de l'écoute sur tous ces gens de quartier, tous ces jeunes de quartier. Il y a d'ailleurs beaucoup d'élus de la mairie en place qui font partie de ce quartier, qui sont très proches de ces gens-là. Et voilà, franchement, c'est vrai que ça m'a légèrement choqué quand je m'en suis aperçu hier sur les réseaux sociaux, parce que voilà, étant donné.
Et on poursuivra, si vous le voulez bien, après le journal, le flash de Olivier Bois. Et puis vous nous parlerez de la mairie, la mairie qui est nouvelle, peut-être à Blois. Et on précisera évidemment cela juste après le flash de Olivier, non pas Blois, mais Olivier Bois. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les 14h.
Le flash avec Olivier Bois.
Et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui est en train de donner sa conférence de presse à l'issue du Conseil sanitaire de défense ce matin. Il faut s'attendre à des mesures restrictives supplémentaires en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France. Il va y avoir des consultations. On écoute précisément Gabriel Attal qui vient de s'exprimer.
Il a été décidé ce matin en Conseil de défense que des mesures supplémentaires seraient prises dans un certain nombre de territoires. Dans les prochaines heures, des concertations seront menées par l'État avec les élus locaux dans les régions Île-de-France et Hauts-de-France et dans les départements qui sont contigus à ces régions pour partager l'état de la situation actuelle, pour recueillir l'avis des élus locaux sur les différentes mesures qui sont envisagées. Le Premier ministre, avec le ministre des Solidarités et de la Santé, annonceront demain à 18h dans une conférence de presse les mesures qui seront retenues pour ces territoires pour une application à partir de ce week-end.
Voilà donc Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui ne prononce pas le mot de reconfinement et qui renvoie donc à cette conférence de presse demain à 18h de Jean Castex et d'Olivier Véran. Emmanuel Macron lui est attendu à Poissy dans les Yvelines cet après-midi pour visiter un centre hospitalier. Il rencontrera notamment les équipes médicales et les équipes des services de réanimation. Dans le reste de l'actualité, le procès de l'affaire Big Malion qui s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Paris. Nicolas Sarkozy n'est pas là. Il est jugé avec une dizaine d'autres prévenus pour le dépassement de budget de sa campagne présidentielle de 2012. Un système de fausses factures avait été mis en place pour masquer précisément le dépassement des budgets. Les dégâts sont importants après la nuit d'émeute à Blois dans le Loir-et-Cher. Des voitures ont été incendiées. Une station-service également, une crèche a été vandalisée. Il a fallu beaucoup de renforts et des heures avant de ramener le calme vers 1h du matin. La situation a dégénéré après un accident de la route suite à un délit de fuite. Le sport, Pascal, avec les huitièmes de finale de la Coupe de France, c'est ce soir à 17h45, le choc entre le PSG et Lille, sans Neymar qui est toujours blessé. Tout de suite la météo. Et ce sera pluvieux cet après-midi sur un quart nord-est, même si le soleil pourrait percer un peu en Alsace. Le temps restera sec et lumineux sur le reste du pays, de la Bretagne à la Côte d'Azur. Il fait cet après-midi entre 8 degrés à Lille, 6 à Belfort, jusqu'à 15 degrés pour la maximale à Montpellier, Pascal.
Merci Olivier. Neymar blessé, ça devient un pléonasme, hein, si vous me permettez.
En tout cas, il a du mal à se remettre de sa blessure aux adducteurs, c'est vrai.
14h02.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et on était donc avec Olivier qui est blésois. Et vous parliez sans doute de Marc Gricourt, qui est le maire de Blois.
Oui, c'est ça.
Et donc.
Pas une nouvelle mairie, du coup.
Pardon ?
Je dis pas une nouvelle mairie, du coup, vu que ça fait l'attaque son troisième mandat. Donc, voilà. C'est une mairie qui est en place depuis plusieurs années.
Et qui est évidemment du côté avec. L'étiquette.
Une ouverte avec une étiquette, une petite étiquette socialiste, mais ouverte.
Mais effectivement, c'est... Voilà. Qui n'est pas affichée en tout cas, mais qui est plutôt quand même tendance à gauche. Par exemple, on se souvient que le maire de Blois a failli boycotter l'autre jour la présence sur le terrain de Frédéric Vidal parce qu'elle avait parlé d'islamo-gauchisme dans les universités.
Ah oui, alors après, je n'ai pas tout suivi sur ce sujet, mais effectivement, après, plutôt une liste assez ouverte quand même, et comme je le disais tout à l'heure, une liste qui est plutôt assez proche de la population, et notamment de tous les quartiers, sans mettre de quartier à part, et notamment le quartier dans lequel se sont passées les violences. Donc plutôt, voilà, on est plutôt assez choqués, on va dire, de ce qui s'est passé.
Vous êtes à Blois depuis combien de temps, Olivier ?
Moi, je suis blésois, alors blésois même depuis une quinzaine d'années, mais j'habitais une commune, quoi. Je suis né à Blois et j'habitais une commune juste à côté. Donc j'ai vécu, fait mes études à Blois.
Et vous diriez que la ville a changé de ce point de vue, que la sécurité aujourd'hui est entamée ?
Non, la sécurité n'est pas entamée. Au contraire, justement, c'était le quartier, donc la ZUP dans lequel ça s'est passé, c'était plutôt un quartier qui était effectivement, quand j'étais jeune et que j'avais 10-15 ans, on entendait plutôt voilà, un quartier chaud et un quartier un peu compliqué où il ne faisait pas forcément... il fallait pas trop y traîner le soir, mais ça avait beaucoup changé depuis plusieurs années. C'était devenu un quartier calme. D'ailleurs, aujourd'hui, comme le dit Marc, c'est un quartier où les habitants, sont pénalisés par ce genre d'événements parce que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé et que ça s'était apaisé, calmé et que c'est un petit peu démesuré par rapport à venir l'ambiance du quartier qu'on avait ces dernières années. Quoi.
Ben merci Olivier de ce témoignage de Blois et je rappelle qu'effectivement on a été surpris par la violence des images. J'invite d'ailleurs tous les gens à pouvoir les voir sur la page Facebook de l'émission ou sur le réseau d'RTL parce qu'effectivement c'est assez impressionnant de voir ce qui s'est passé cette nuit à Blois, 14h05.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
La pause et après la pause nous parlerons de la réaffirmation par le Vatican de la doctrine de l'Église catholique, l'homosexualité est un péché. Vous allez nous dire ce que vous en pensez.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. 13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
C'est vrai que ça nous a un peu surpris, cette position de l'Église, parce qu'on avait le sentiment qu'elle avait évolué, notamment avec les déclarations du pape François. Nous sommes avec Michael. Bonjour Michael.
Bonjour Pascal.
Bonjour. Est-ce que vous êtes catholique d'abord ?
Catholique pratiquant, oui.
Donc voilà, c'est important de le dire parce que.
Une association qui s'appelle FIDE et qui lutte au quotidien pour remettre l'église au centre du village.
Bon, alors pourquoi pas, d'ailleurs, évidemment, et on peut se rejoindre sur certaines valeurs de l'église, mais considérer que l'homosexualité est un péché. Vous vous rendez compte quand même ? En plus, quand on sait ce qui s'est passé dans l'Église, disons-le, je ne sais pas si de ce point de vue-là, l'Église est toujours la mieux placée pour parler d'homosexualité.
Ouais, alors déjà, dans votre introduction, Pascal, je me permettrai de vous dire que c'est pas exactement, c'est même pas du tout ce que Rome a cité. Il n'est pas question là de parler de péché sur l'homosexualité en tant qu'homosexuel. On parle de l'union. C'est la bénédiction de l'union que Rome refuse de reconnaître. Parce que, alors ça peut être vu comme par certains.
Attendez, parce que j'ai le texte sous les yeux là. Hein. J'ai le texte de la Congrégation du Vatican. Hein. Dans certains milieux ecclésiaux se diffusent aujourd'hui des projets et des propositions de bénédiction pour les unions entre personnes du même sexe.
De bénédiction de les unions. Voilà. Vous voyez ?
Pour cette raison, il n'est pas licite de donner une bénédiction aux relations même stable qui implique une pratique sexuelle hors mariage, c'est-à-dire hors de l'union indissoluble d'un homme et d'une femme ouverte en soi à la transmission de la vie. Dieu n'arrête jamais de bénir chacun de ses fils, mais il ne bénit pas ni peut bénir le péché. Pardonnez-moi, ça c'est la congrégation. Je répète cette phrase, Dieu n'arrête jamais de bénir chacun de ses fils, mais il ne bénit pas ni ne peut bénir le péché. Donc si vous me dites que c'est pas écrit, ça c'est pas vrai. C'est écrit et c'est le péché.
Ce que je dis, c'est que Rome n'a jamais condamné ou parlé de péché pour l'homosexualité. On a parlé de péché.
Il ne veut pas bénir ce qui est un péché, vous appelez ça comment ?
Non. Moi, je vous parle du mariage. Là, ce qui est question, c'est la bénédiction d'une union entre deux personnes de même sexe.
Et après, deux personnes de même sexe, ça s'appelle comment ? C'est pas l'homosexualité ?
Mais dans votre phrase, ça peut laisser croire que l'Église, aujourd'hui, elle est en train de condamner ou d'appeler pécheur l'homosexuel lambda. Là, aujourd'hui, ce que l'Église...
Écoutez, je veux bien qu'on joue sur les mots, hein, je prends les auditeurs
franchement,
en plus, vous savez, moi, je suis un catholique, donc... pratiquant, en tout cas, parfois éloigné, mais on ne peut pas me taxer de faire de l'anticléricalisme.
Je sais bien, et je suis plutôt un auditeur fréquent, mais c'est pas là... Les mots ont un sens dans ce genre de sujet et de débat. Il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier déjà de base, c'est que depuis 1870, on reconnaît l'infaillibilité pontificale. C'est-à-dire que déjà là, on parle de dogme, on ne parle pas de quelque chose qu'un homme décide. Donc si aujourd'hui le débat il doit avoir lieu entre les paroles dites par le pape François en tant que François et non en tant que pape, parce qu'il a dit ce qu'il pensait il y a quelques semaines. Là, on parle de paroles, de positions prises par le chef de l'Église. Et donc, ça révèle du dogme. On ne peut pas demander à une Église centenaire, millénaire, de changer en fonction, des effets de mode de la société ou des demandes que les hommes
c'est
ont.
Pas une mode, là, c'est pas une mode, l'homosexualité.
Non, c'est pas.
C'est pas une mode.
Ça veut dire l'effet de mode de la demande. De la demande aujourd'hui, il y a plus en plus de
société,
personnes
elle a évolué.
Au sein même de l'Église. Il y a plus en plus de personnes au sein même de l'Église qui demandent une bénédiction.
Mais par exemple, vous êtes catholique, vous considérez que deux hommes ne pourraient pas se marier devant Monsieur l'abbé.
Je considère à titre personnel que deux hommes.
Mais pourquoi ?
Je considère à titre personnel que deux hommes peuvent vivre ensemble s'ils le souhaitent. Mais je suis complètement opposé et je rejoins complètement le pape. Mais parce que c'est les dogmes. On parle.
Oui, mais pourquoi ? Attends, ça veut rien dire les dogmes.
Mais
qu'est-ce qui vous
le béaba
D'abord, les dogmes peuvent évoluer. Mais pourquoi, au fond, le catholique que vous êtes ne souhaiterait pas que deux hommes ou deux femmes entrent dans une église et se marient ? Pourquoi ?
On va pas faire un cours de théologie maintenant, mais il y a ce qu'on appelle notamment le Lévitique dans l'Église catholique qui n'est pas en accord et qui condamne l'homosexualité.
Mais ça, c'était avant. Mais vous, ce qui m'intéresse, c'est vous. Qu'est-ce qui vous choquerait là-dedans ?
Mais ça me choque parce que l'Église, elle bénit des personnes pour un mariage devant le divin dans le but de fonder une famille et de donner une éducation à leurs enfants et que ça continue. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à l'Église, vous devez donner l'aval à deux personnes qui veulent se marier devant le divin, car ce serait péché parce que dans les paroles, dans le dogme, dans les livres saints, dans les Écritures, c'est considéré comme péché. Vous vous rendez compte, vous êtes en train de demander à l'Église catholique des centaines d'années, des milliers d'années de d'existence, d'aller à l'encontre même des paroles saintes et des écrits saints. C'est pas possible.
Je ne sais pas si c'était écrit saint. Alors là, franchement, les paroles de Pierre ou les paroles de Paul ou les paroles des comment dire des de cette période-là, on peut les remettre en cause forcément parce que
oui, qu'est-ce qui aurait été dit en cause en tant que Pascal Praud. Jamais je ne les remettrai en cause.
Non, mais là encore, je suis rien. Mais je veux dire, Pierre n'a pas écrit de mots sur l'homosexualité, que je sache.
Non, mais par exemple, dans Lévitique, il a écrit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme ».
Bon, il était aussi écrit qu'on couchait pas avec des petits garçons. Et puis l'Église a bafoué parfois ces règles-là. Mais, Michael, restez avec nous, parce que Claudine est là. Claudine est scandalisée par la position de l'Église. Bonjour Claudine.
Bonjour Pascal. Donc je suis catholique, je suis une ancienne gynécologue spécialisée en stérilité, catholique, engagée dans mon Église et absolument, effectivement, scandalisée, plutôt très triste de voir une fois de plus une condamnation sur un sujet de sexualité. Voilà. En plus de ça, il y a eu, alors là, j'ai suivi votre débat, on va aller au-delà du problème du péché, là, ce serait une histoire trop longue, mais ce qu'il est question, c'est de la bénédiction de couples homosexuels. Et je ne vois pas d'ailleurs, ça a été fait récemment, dans plusieurs paroisses, en France en particulier, par des prêtres qui le voulaient bien, la bénédiction n'est pas le sacrement du mariage. Alors le sacrement du mariage, il est verrouillé en Église, verrouillé dogmatiquement, et pas par l'Évangile, mais par les textes de l'Église, il est verrouillé depuis longtemps. Voilà. Alors après ça, je vous laisse parce que j'ai pas continué. Je vais vous répondre plutôt. Je sais pas comment vous réagir. Je suis plutôt de votre côté, si vous voulez.
Non, mais là, je veux pas dire que je suis d'aucun côté. Je me mets simplement à la place d'un homosexuel catholique qui peut se dire aujourd'hui, mais je ne suis pas un fidèle comme les autres. Je ne suis pas considéré comme un fidèle comme les autres.
C'est scandaleux. C'est scandaleux qu'il ne puisse pas être béni. Parce que qu'est-ce que dit le mot bénir, c'est dire du bien. Et l'Église catholique ne peut pas ne pas dire du bien d'un amour vrai entre deux hommes ou entre deux femmes. Ça, c'est impossible. Pour moi, selon l'Évangile. Dans l'Évangile, il n'y a pas un mot de condamnation sur ce plan-là. Il n'y a pas un mot. Voilà. Ça a été des additions de génération en génération. Il y a eu une chose qui a été étonnante, ça c'est peut-être bon de le faire savoir, c'est que l'Église a été un refuge d'homosexuels pendant très longtemps, parce que la société les rejetait violemment, les familles les rejetaient, et que l'une des portes de sortie était l'Église. D'ailleurs, il y a eu un livre assez récent de Monique Hébrard qui montrait que dans l'Église catholique, il y avait à peu près 30% de prêtres qui avaient une tendance homosexuelle, on va dire. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que dans les abus sexuels de l'Église même, dont on a beaucoup parlé, il y a beaucoup plus de garçons que de filles.
Merci Claudine. Voilà. Merci Claudine de ce témoignage. Et il y a 5 mois, je rappelle les propos du pape estimant que les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille et qu'elles avaient le droit d'être couvertes légalement. Ça avait provoqué une polémique avant que le Vatican ne précise que François n'avait aucunement remis en cause de cette manière le dogme du mariage entre un homme et une femme. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et je rappelle que le Vatican a réaffirmé hier la doctrine de l'Église catholique, considérant l'homosexualité comme un péché. Et le Vatican a également confirmé l'impossibilité pour les couples de même sexe de recevoir les sacrements du mariage réservés à l'union indissoluble. Indissoluble entre un homme et une femme. Nous sommes avec Marine, qui est professeure à la Cato, ou professeure de catéchisme,
non,
c'est ça?
Non, pas du tout, je suis professeure dans un collège catholique.
Ah, d'accord.
Rien à voir.
À Rambouillet. Alors, quel est votre sentiment, Marine?
Bah, mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas trop de surprises, quoi. C'est-à-dire que c'est normal, on entend homosexuel, on entend mariage, on entend péché, forcément, ça affole tout le monde. Quand on parlait juste avant, votre intervenante a dit que c'est scandaleux qu'on ne puisse pas les bénir. C'est vraiment écrit dans le texte, au contraire, qu'on invite les personnes homosexuelles à être bénies, mais individuellement. Ce que l'Église ne veut pas, c'est bénir un couple. Parce que bénir un couple, c'est reconnaître l'union. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez, parce que je crois que le débat porte sur l'homosexualité alors qu'on se trompe de sujet. On parle d'union légitime ou illégitime. Moi, je suis mariée. Demain, je prends un amant. J'aime mon amant de tout mon cœur, je veux plus de mon mari. Mais l'Église ne reconnaît pas nul mon mariage, donc je ne peux pas vivre avec mon amant. Mais je suis très catholique et je veux vraiment que l'Église reconnaisse mon amour avec mon amant, qui est mon nouveau compagnon avec qui j'ai reconstruit ma vie. Si je vais devant un prêtre, ce prêtre ne peut pas me bénir mon union. Non, oui. Pas parce que.
Mais là, c'est parce que je ne vois pas ce pas de côté que vous faites.
Ben, c'est exactement la même chose.
Ben non.
Si l'Église ne reconnaît pas aujourd'hui, ne peut pas bénir une union homosexuelle, c'est pas parce que ce sont des homosexuels et que l'Église est homophobe. C'est parce que cette union n'est pas légitime. Mais, parce qu'elle est hors mariage catholique. Vous voyez ou pas?
Mais oui, mais enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Je veux dire. Ben, parce que tu ne veux pas te marier, parce que tu ne peux pas te marier. C'est ce que vous êtes en train de me dire.
Non,
l'Église considère, moi je lis.
L'Église dans l'Église catholique a une vue de procréation. Les unions homosexuelles ne sont pas procréatives.
Et bien c'est ce que je veux,
l'Église
nous sommes d'accord.
L'Église ne pourra jamais les reconnaître.
Et bien nous sommes d'accord.
Donc quand le problème
Le problème, c'est qu'elle ne reconnaît pas les sacrements du mariage pour un couple homosexuel.
Mais oui, mais pourquoi vous êtes choqué? C'est ça que je ne comprends pas.
Mais pourquoi je suis choqué? Parce que si je suis un fidèle catholique, je ne suis pas considéré au nom... Au regard de l'Église comme un hétérosexuel, puisque seule l'union indissoluble existe entre un homme et une femme.
Mais parce
il n'y a pas d'union entre deux hommes. Il n'y a pas d'union entre deux hommes dans l'Église. Moi, je veux bien que vous me disiez qu'elle n'est pas homophobe, mais effectivement, elle est homophobe. Elle est objectivement...
Quoi,
en tout cas, elle est...
La vocation mariage chrétien... Pascal Praud, la vocation du mariage chrétien, c'est la procréation. Comment voulez-vous que l'Église reconnaisse un mariage avec deux personnes du même sexe alors qu'il n'y a pas de procréation possible? Ce n'est pas possible.
Mais j'entends
qu'on
ce que vous dites.
Qu'ils s'aiment, qu'on reconnaisse, qu'on les accueille, aucun problème. Qu'on ne juge pas,
mais où est-ce
aucun
que
problème.
Vous avez...
Mais on ne peut pas dire qu'il y a un mariage chrétien entre deux personnes de même sexe. Il n'y a pas d'ouverture à la procréation. Vous comprenez?
Mais
pas possible.
D'abord, pardonnez-moi, mais ce que vous dites, je pourrais objectivement vous dire que c'est faux. Parce que... si une personne de 70 ans veut se marier avec une autre personne de 70 ans à l'église, il y a peu de chances qu'ils puissent faire des enfants ensemble et ils auront le droit de se marier.
Exactement.
Et ils auront le droit de se marier.
Dans ces cas-là, on parlera d'une fécondité de couple. Parce qu'on sait que la fécondité physique n'est plus possible. Ça arrive dans beaucoup de cas, exactement.
Bon, ça c'est un argument objectif. La vérité, mais... D'ailleurs, je retire le mot homophobe de l'Église, mais je constate que l'Église ne souhaite pas que deux hommes ou deux femmes se marient ensemble. C'est indissoluble pour elle. Donc,
Mais c'est pas possible,
ça peut le devenir.
Mais
L'Église pourrait dire...
Aux gens que c'est la même chose, Pascal Praud. Est-ce que vous croyez véritablement qu'une union homosexuelle et une union hétérosexuelle, c'est la même chose?
Mais je comprends même pas...
Je comprends que vous compreniez pas.
Je comprends même pas le sens de ce que vous me dites.
Une union homosexuelle,
un homme qui aime un autre homme, c'est la même chose qu'un homme qui aime une femme. Oui, je le pense, oui.
Vous ne voyez pas du tout de différence. Je ne parle pas de hiérarchie, de mieux, de pas bien, de tout ça. Hein. Je vous parle juste d'un point de vue naturel. Vous ne voyez pas de différence.
Je vois effectivement une différence qu'effectivement, dans un camp, on pourra faire des enfants et dans un autre, on ne pourra pas en faire.
Mais
ça ne justifie pas, à mes yeux...
Dans une procréatif.
Mais où est-ce que vous avez lu ça?
C'est dans quel texte? C'est pour le soutien mutuel des époux. Regardez dans votre catéchisme.
Qu'il faut faire des enfants.
C'est à ça que sert le mariage chrétien, en fait.
Mais je vous répète, où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que vous avez écrit noir sur blanc, vous vous mariez pour faire des enfants?
Ce sont les deux fins du mariage chrétien.
Écoutez, moi, il ne me semble pas que ce soit écrit aussi clair que vous le disiez, sauf erreur de ma part. Je suis pas un... Je veux bien faire une exégèse des textes de Pierre, de Paul...
Dans le catéchisme, il y a tous les trucs sur les sacrements, vous tombez sur le mariage, point.
Mais je vous répète, vous dites le but du mariage, c'est de faire des enfants.
C'est le soutien mutuel des époux et procréation, oui.
Oui, soutien mutuel des époux, ça peut très bien aller pour deux hommes qui se marient ensemble et deux femmes qui se marient ensemble.
Mais vous pouvez penser, qu'est-ce que vous voulez que je vous livre. Vous pouvez tout à fait le penser, mais je vous dis que comme l'Église se fixe comme objectif la procréation, elle ne peut pas l'ouvrir à des personnes qui peuvent pas procréer. C'est aussi simple comme ça. Et je reviens à mon exemple de mon amant. Comme en plus c'est une question de union légitime ou illégitime, si moi j'ai une union illégitime, je ne peux pas demander à un prêtre de venir me bénir.
Oui, mais ça c'est un peu
mon
autre
union,
chose,
c'est exactement pareil. Mais si, parce qu'en fait vous décalez sur mon sexualité, parce que c'est ça ce qui fait scandale, parce qu'on aime bien montrer du doigt que l'Église dit que
mais
c'est un péché.
Ne dites pas ça à moi, Marine. J'ai été élevée dans les écoles chrétiennes.
Mais
et je
sais,
ne me dites pas ça
à
moi. Mais moi, écoutez, Dieu n'arrête jamais de bénir. Je suis désolé, mais c'est le mot péché. Je suis pas d'accord avec vous. Dieu n'arrête jamais de bénir chacun de ses fils, mais il ne bénit pas ni ne peut bénir le péché. C'est écrit noir sur blanc.
Aussi vrai que si je suis avec mon amant, je vis en péché.
Ah ben ne le faites pas alors. Allez,
non, mais c'est
il y a beaucoup
pareil,
de gens qui devraient être empêchés. Marine,
mais
c'est
oui,
super
c'est
notre conversation, mais c'est fini. Donc rappelez-nous demain.
Ah ouais, demain,
c'est vachement bien ce que vous. Quoi, vachement, pardonnez-moi, c'est un peu trivial. C'est bien ce que vous dites.
Je sais pas si je pourrais, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas.
C'est fini là, parce qu'il y a le débrief.
On est toujours dessus, c'est ça en fait.
Il y a le débrief. Il y a le débrief, mais j'ai pas envie de vous tomber dessus, Marine. Au contraire, on discute. À demain, Marine. On fera un deuxième tome. Vous êtes d'accord, Laurent ?
On y va.
On est en retard, le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Des mesures supplémentaires vont être prises en Île-de-France et dans les Hauts-de-France pour lutter contre la Covid-19. Elles seront annoncées demain soir à 18h. Alexandra est présidente d'une association de commerçants à Paris. Elle redoute plus de restrictions.
Nous ne comprenons pas très très bien où va le gouvernement. Et puis les aides vont-elles être mises en place ? Moi j'appelle Monsieur Bruno Le Maire. Là, je lui lance un appel sur votre antenne. Monsieur Bruno Le Maire, donnez très très vite des nouvelles.
Des décisions qui pourraient fragiliser un peu plus des commerces.
Alors, je vais vous faire pleurer encore. Donc, depuis ce matin, j'ai vendu 2 cartes postales. Voilà.
Et la stratégie du gouvernement est loin, en tout cas, de séduire Romain.
Gouverner, c'est aussi avoir un cap. Or, aujourd'hui, moi, je me dis, je suis français, je ne sais plus où je vais. Et le confinement, il est acceptable à partir du moment où on sait pourquoi il est mis en œuvre.
Et vous êtes chez vous, vous le savez, pendant l'émission. Maxime était d'ailleurs très à l'aise.
Ah, je suis désolé, parce que je vais devoir vous laisser.
Qu'est-ce qui se passe
à côté de chez moi. Je vous laisse.
Ah
j'ai
bon
des voisins qui font des travaux. Je m'en excuse.
Ah bah non, mais je vous entends encore, Maxime.
Ah, vous
m'entendez
bien ?
Reste avec nous, Maxime. Il était à deux doigts de nous quitter à cause de ses voisins. Calmez-vous, cher voisin. Une réaction, Pascal ?
Tout fout le camp, cher ami.
Eh ouais, tout fout le camp. Et puis, en attendant de nouvelles restrictions, nous vous avons interrogé sur un drôle d'anniversaire.
Un an de Covid, c'est notre thème aujourd'hui.
Ouais, et Ludovic retient tout de même quelques bons moments.
Ce confinement a permis de faire une pause. Pour le coup, très sincèrement, ça a été des vraies vacances. La journée, j'étais seul avec ma femme qui, elle, était en télétravail. Du coup, je pouvais m'occuper de ma maison. Je faisais à manger pour ma femme le midi. L'après-midi, je faisais du vélo dans mon garage. J'allais chercher mon fils. Enfin, je me suis occupé de ma vie.
Oh, la belle vie, sans amour.
Et pendant l'émission, vous avez eu une demande, Pascal.
Cette phrase-là, je la veux dans le débrief.
Oh, mais quelle phrase avez-vous retenue ?
L'homme moderne est devenu un robot ménager. Voilà ce que nous sommes devenus en un an, on est chez nous.
Mais bon. C'est aussi un plaisir, vous savez.
De planter des clous, bien sûr.
Oui, oui. Ah, alors peut-être que ce n'était pas cette phrase.
Là, on a partagé mais tellement de choses et j'ai changé ma façon de voir aussi.
De voir votre mari, vous avez changé votre façon. Vous le voyez différemment.
Écoutez, je l'ai aimé encore plus fort.
Non
voilà. Je vous jure.
Et je rappelle cette phrase, aimer est plus fort que d'être aimé, c'est beau l'amour.
J'ai aimé mon mari de plus en plus fort, de encore plus fort.
Encore plus, mais vraiment encore plus fort.
C'est vrai.
J'ai découvert,
Ah bah ça doit être très chaud chez Virginie. Sinon notre réalisateur Greg Cardoni n'était pas là aujourd'hui, il était remplacé par Boris. Si vous ne le connaissez pas, mesdames, messieurs, souvenons-nous de ses meilleurs punchlines.
Cet été, Boris passe ses vacances au camping de la plage.
Est-ce que vous savez traire une vache, monsieur
Jamais.
Boris ?
Jamais.
Boris, vous avez une chanson préférée de traîner ?
Pas vraiment, non.
Vous en foutez.
Grosse animation chez Boris. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte forcément avec l'auteur de...
C'est plus fort qu'être aimé, évidemment. On va peut-être y réfléchir avec mademoiselle Flavie Flamand.